bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 73% des personnels d'éducation estiment que leur travail a dégradé leur santé ces dernières années. Étude réalisée par le SNES alors qu'aujourd'hui le ministère de l'Éducation veut écouter leurs difficultés. Il envisage un recours au service civique pour les aider. Nous entendrons la réaction d'une directrice d'école dans ce journal. Nous irons aussi dans les couloirs de l'Assemblée nationale où les questions d'immigration ont animé les débats. Ce matin, Édouard Philippe détaillera les 20 mesures de l'exécutif à ce propos. Et puis le président du Conseil européen ne veut pas être président de la Pologne. Il n'est pas candidat, a-t-il dit hier, laissant le champ libre pour l'instant aux conservateurs. Direction Varsovie dans moins de 10 minutes. La souffrance au travail pour les enseignants sera donc au cœur d'un CHSCT extraordinaire ce mercredi. Un comité organisé par le ministère de l'Éducation nationale, un mois et demi après le suicide de Christine Renon, directrice d'école à Pantin en Seine-Saint-Denis. Les tâches de ces directeurs d'école se sont multipliées ces dernières années. 93% des enseignants en France ont d'ailleurs ce sentiment, voilà ce que dit ce matin une étude du SNES-FSU, le syndicat du second degré. 73% des enseignants ont vu leur santé se dégrader. Pour répondre à ce malaise, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, propose de leur apporter de l'aide via les jeunes du service civique. Une solution insuffisante pour Annabelle Roy. Elle est déléguée départementale de l'UNSA de la Haute-Vienne. Elle est aussi et surtout directrice d'école à Saint-Martin-de-Jussac, un petit village à côté de Limoges.
Pour des écoles qui sont d'un grand nombre de classes, cela peut certainement avoir son utilité. Mais pour les petites écoles comme les miennes, on n'a pas le temps. En fait, expliquer les tâches au service civique, c'est des tâches qui pourraient, nous, directeurs d'école, nous délester d'un quotidien qui est parfois trop lourd. Donc je ne pense pas que ce soit une mesure qui soit efficace, en tout cas au sein, encore une fois, des petites écoles. Hein. Des écoles qui ont, comme moi, un jour de décharge par mois ou un jour par semaine. Donc ce qu'il nous faut, en fait, c'est du temps de décharge pour nous, du temps de décharge supplémentaire. Des postes supplémentaires dans le premier degré, ça devient absolument indispensable.
Alors par exemple, qu'est-ce qu'on vous demande en plus aujourd'hui ?
Tout ce qui relève des plans Vigipirate, tout ce qui relève des plans particuliers de mise en sécurité dans les écoles pour les alertes intrusions, les alertes attentats, les risques de confinement. Ça, ce sont des choses, des tâches qui se sont rajoutées au fur et à mesure des années pour lesquelles on n'a pas été formés. Surtout nous, les anciens directeurs, entre guillemets, puisque moi je suis directrice depuis plus de 15 ans maintenant.
C'était Annabelle Roy, déléguée départementale de l'UNSA en Haute-Vienne, interrogée par Hakim Kasmi, à l'aube donc d'un CHSCT extraordinaire. Ce mercredi, le gouvernement s'empare également des sujets d'immigration en officialisant une vingtaine d'arbitrages, 20 mesures présentées ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. Parmi elles, il y a l'instauration de quotas économiques afin de pourvoir en emploi les métiers dits en tension. Il y a également le durcissement des conditions du regroupement familial et un délai de carence de 3 mois pour accéder aux soins pour les demandeurs d'asile. Nous l'évoquions d'ailleurs ici même car les parlementaires avaient été mis au courant par l'exécutif de ce délai de carence de 3 mois. De quoi faire réagir toute la journée les députés à l'Assemblée nationale, Stéphane Robert.
Les députés de la majorité sont assez partagés sur les premières mesures annoncées. Mais ils estiment toutefois, à l'image du député des Landes, Lionel Causse, que l'exécutif doit s'emparer de cette thématique.
Le but, c'est de répondre à des attentes, à des inquiétudes aujourd'hui quand les Françaises et Français. On voit très bien que les enjeux d'immigration reviennent souvent. Alors que le gouvernement aujourd'hui réponde, parce que vous avez vu qu'il y a eu quelques difficultés ces derniers temps, parce qu'on a vu qu'il y avait une surenchère entre le Rassemblement National et les Républicains pour l'histoire du voile. Nous aussi, on a le droit de faire des propositions et d'avancer sur ces sujets.
Mais ce que propose le gouvernement, comme les quotas économiques ou le durcissement du regroupement familial, ne plaît pas vraiment à la droite, qui considère qu'on marche sur ses plates-bandes et du coup que ça ne va pas assez loin. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes.
On verra les propositions. Simplement, je suis assez dubitatif sur l'ambition limitée de ce texte. Je ne suis pas sûr que les résultats seront au rendez-vous de ces mesures, comme ne l'a pas été la loi Collomb, qui s'avère être un échec total et absolu aujourd'hui.
Quant au Rassemblement national,
je pense que c'est une vaste fumisterie.
Il y voit une manœuvre politicienne, Marine Le Pen.
C'est de l'enfumage, voilà, qui consiste à parler d'immigration pour faire croire qu'on agit sur l'immigration. Chaque jour qui passe sans qu'on prenne les mesures nécessaires, suppression de l'aide médicale d'État, suppression du droit du sol. Chaque jour qui passe, on ne prend pas ces mesures, eh bien on aggrave la situation de la pression migratoire.
La gauche dénonce également une manœuvre stratégique et accuse Emmanuel Macron de droitiser sa politique à des fins électorales.
Emmanuel Macron qui est en Chine en ce moment alors que ces mesures sont présentées en France. Il termine une visite de 3 jours à Shanghai et à Pékin maintenant. Et Emmanuel Macron vient à l'instant de s'exprimer en conclusion du forum du Conseil présidentiel des entreprises françaises et chinoises. Le président français prône une plus grande ouverture du marché chinois ainsi qu'une mobilisation générale sur les questions climatiques. La France annonce la mort d'un chef djihadiste au Sahel, le Marocain Ali Maïchou, tué par l'armée française le mois dernier. Voilà ce que dit la ministre des Armées, Florence Parly. Elle explique que cet homme était un recruteur à l'origine de plusieurs attentats. Le Front National et son entourage ont-ils financé leurs campagnes électorales entre 2012 et 2015 grâce à des escroqueries au préjudice de l'État? Un procès doit répondre à cette question. 7 protagonistes de l'affaire, dont 2 cadres du parti, comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris, Antoine Maret.
3 personnes morales sont poursuivies dans cette affaire. Le Front National, devenu le Rassemblement National en 2018, le micro-parti Jeanne et la société de communication Riwal. Riwal qui est soupçonné d'avoir surfacturé du matériel de campagne aux dépens de l'État, des kits de campagne obligatoires comprenant des tracts, des affiches et un site internet que les candidats FN aux législatives devaient acquérir pour la somme de 16 650 euros pièce. Il contractait pour cela un prêt auprès du micro-parti Jeanne. Au cœur de ce dossier, Frédéric Chatillon, cet ancien responsable du GUD, est un proche de Marine Le Pen. Il est accusé d'avoir mis en place un véritable système frauduleux pour aider le FN en proie à des difficultés récurrentes de financement et d'en avoir profité au passage pour s'enrichir au détriment de l'État. Son associé Axel Lousteau est également poursuivi, tout comme l'eurodéputé Jean-François Jalques pour escroquerie. Le trésorier du FN, Valran de Saint-Just, est quant à lui poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. Dans l'autre volet de cette affaire, Jean-François Jalques, le micro-parti Jeanne et Frédéric Chatillon vont également être jugés pour des montages financiers semblables, cette fois-ci lors des municipales et des européennes de 2014 et lors des départementales de 2015.
Voilà de quoi faire trembler un peu plus Donald Trump à 1 an de la présidentielle. Un diplomate américain admet avoir conditionné une aide militaire destinée à l'Ukraine en échange de l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden, rival de Donald Trump. Son témoignage est le plus accablant recueilli à ce jour par les démocrates. Ils ont, je vous le rappelle, entamé une procédure de destitution contre le président américain. En Pologne, Donald Tusk ne sera pas le prochain chef d'État. L'actuel président du Conseil européen a annoncé hier qu'il ne briguera pas la présidence de son pays en mai prochain. Sa décision était très attendue à Varsovie, à la fois par son camp et par ses adversaires conservateurs, actuellement au pouvoir via Andrzej Duda. Les libéraux polonais vont maintenant devoir trouver un autre candidat, Damien Simonard.
Il devait annoncer sa décision le 2 décembre à l'issue de son mandat au Conseil européen. C'est finalement avec 1 mois d'avance que Donald Tusk s'est prononcé sur son avenir.
Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas me présenter à la prochaine élection présidentielle. J'annonce cette décision aujourd'hui parce que le temps presse et je ne voudrais en aucun cas rendre plus difficile pour l'opposition le choix d'un candidat.
Considéré par beaucoup comme le candidat le plus dangereux pour l'actuel président polonais Andrzej Duda, Donald Tusk est depuis longtemps la cible numéro 1 du parti nationaliste Droit et justice. La large victoire de ce dernier aux récentes élections législatives a été un frein à la candidature de Tusk.
Je pense que nous pouvons gagner cette élection, mais pour cela, il faut un candidat qui ne soit pas lesté d'un bagage de décisions difficiles et impopulaires. Moi, j'ai un tel bagage depuis le temps où j'ai été Premier ministre.
Donald Tusk fait référence à l'augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans, à la réforme du système d'assurance santé ou encore à la privatisation d'entreprises publiques par des capitaux étrangers. Sa non-candidature pour 2020 laisse un vide énorme chez les libéraux qui vont devoir trouver un nouveau leader avant la fin de l'année.
C'était Damien Simonard pour France Culture. Ce sera officiel ce mercredi. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, va dissoudre le Parlement. Il annoncera ensuite formellement la tenue d'élections anticipées pour le 12 décembre prochain. Les enquêtes d'opinion créditent pour le moment les conservateurs d'une avance confortable sur le parti travailliste, mais ils préviennent. L'opinion est inhabituellement volatile à un peu plus d'un mois de l'échéance. Seul le sud-est de la France sera ensoleillé aujourd'hui. Partout ailleurs, les averses ponctueront la journée sous des températures de saison, avec ce matin 9 degrés à Besançon, 10 à Lille, 12 degrés à Nantes, Paris et Lyon, comptez 14 degrés à Bordeaux et 17 degrés à Toulon.